Théologie naturelle, Père Philippe, 26 octobre 1983, Saint-Joseph.
Vous n'avez pas sous les yeux le texte de saint Thomas, vous l'aurez. Alors soyez très attentifs. Et on essaiera du reste d'entrer un peu dans la pensée de saint Thomas par rapport aux manières d'exister de Dieu. Alors, je rappelle le point de vue que nous prenons, c'est très important pour qu'il n'y ait pas d'équivoque et qu'on comprenne bien ce que nous faisons comme démarche. Je vous ai dit la dernière fois qu'au terme de toute la démarche philosophique, le philosophe se pose la question, existe-t-il une réalité au-delà de l'homme, puisque c'est l'homme, la réalité la plus parfaite que j'expérimente. Et le philosophe essaie de répondre à cette interrogation. C'est ce qu'on appelle les voies d'accès vis-à-vis de la découverte de l'être premier. Cet être premier que nous appelons Dieu. C'est donc cet effort que le philosophe fait en dernier lieu pour découvrir l'existence d'un être premier que nous appelons Dieu. Cette démarche, elle doit toujours être présente dans notre intelligence. Mais ce n'est pas celle-là que je vois tout de suite avec vous. Je vois avec vous, au contraire, la démarche de saint Thomas. Saint Thomas est un théologien et non pas un philosophe. Quand nous lisons saint Thomas, comprenons que nous sommes en théologie, c'est-à-dire qu'on part de la foi et qu'on essaie de mettre toute son intelligence philosophique au service de notre foi. Et l'intelligence philosophique de saint Thomas est un peu plus poussée que la nôtre. Donc, ce que dit saint Thomas, nous ne le comprenons pas toujours. Faisons confiance, comme à un maître. Ne jugeons pas tout de suite en disant « c'est idiot ce qu'il dit ». Non. Comprenons. Il est plus intelligent que nous et dit des choses qui nous dépassent. Mais nous pouvons nous mettre à son école et essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Alors, comprenons que dans la démarche du théologien qui part de la foi, dans la démarche de la doctrina sacra qui part de la foi, saint Thomas s'est posé lui-même la question des voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Nous l'avons vu l'année dernière, donc nous ne revoyons pas cette année-ci. Ceux qui ne l'ont pas vu présuppose que c'est vu. En disant, il y a là une démarche très intéressante, difficile, c'est la fameuse question de saint Thomas sur l'existence de Dieu. De Deo, donc au sujet de Dieu, Dieu existe-t-il? An sit, question 2 de la somme. Cette démarche, saint Thomas l'a fait dans une perspective critique de théologien. Et j'explique tout de suite, pour que vous compreniez bien, ceux qui l'ont vu l'année dernière, ce sera un rappel qui actuera et qui leur permettra de mieux comprendre. Donc cette question de la somme, cette question de la prima pars, saint Thomas se pose la question, est-ce que Dieu existe? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'exister de Dieu est-il évident pour mon intelligence? Saint Thomas dit non. Est-ce que l'exister de Dieu est-il évident pour mon intelligence? Saint Thomas dit non. L'exister de Dieu n'est pas évident pour mon intelligence. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une expérience immédiate de Dieu. au point de vue de mon intelligence naturelle, indépendamment de la foi. C'est la foi qui adhère directement à l'existence de Dieu, mais pas mon intelligence. Mon intelligence laissée à elle-même n'a pas l'expérience de Dieu. Elle a l'expérience d'un appétit religieux. Ce n'est pas la même chose. Elle a l'expérience d'un appétit spirituel qui tend vers un absolu. Ça, elle peut avoir l'expérience de ça. Donc, elle peut avoir l'expérience du sacré. On a l'expérience du sacré avant de découvrir Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Puisque cet appétit vers l'absolu, c'est quelque chose de sacré. Donc on peut avoir l'expérience du tremendum, comme disent les philosophes, on peut avoir l'expérience du tremendum, l'expérience de Moïse, ce lieu est saint, il a enlevé ses chaussures, parce que ce lieu était saint. Alors il s'est mis à trembler. Quand on est en face d'un absolu, on commence à trembler. On ne tremble pas seulement devant le loup qui rugit, n'est-ce pas, mais on peut trembler aussi parce qu'il peut y avoir une présence de Dieu cachée. Alors ça, c'est l'expérience du tremendum, c'est l'expérience du sacré. Ça, c'est une expérience religieuse, c'est pas l'expérience de Dieu. Oui. Quand vous avez peur, c'est pas Dieu qui vous fait peur, c'est vous qui avez peur de Dieu. C'est pas la même chose. Hein. C'est tout à fait différent. C'est vous qui avez peur de la majesté de Dieu, parce que vous sentez que c'est pas tout à fait au point. Parce que vous sentez que vous êtes une pauvre petite créature. Alors vous avez peur de la majesté de Dieu. Mais quand on est dans les bras de Dieu, on n'a pas peur de Dieu. Donc, c'est pas Dieu qui est terrifiant. C'est moi qui ai peur de Dieu. C'est la petite créature qui a peur de Dieu. C'est pour la petite créature que Dieu est terrifiant. C'est très important de comprendre bien cela. Donc, on se pose la question, l'exister de Dieu est-il évident ? Article 1er. Saint Thomas dit non. Saint Thomas dit non face à Saint Anselme. Saint Anselme prétend que l'exister de Dieu est évident. Toute une série de philosophes continueront de dire que l'exister de Dieu est évident. Ils ont beaucoup de chance. Parce que moi, je n'ai jamais eu cette évidence de l'exister de Dieu. Au niveau de l'intelligence, si vous l'avez, vous viendrez me le dire. Hein, parce que c'est important d'essayer de bien voir qu'il y a là une petite confusion. Au point de vue de la foi, alors j'adhère immédiatement à l'existence de Dieu. Ça, c'est sûr, parce que Dieu me parle. Alors j'adhère immédiatement à l'existence de Dieu. C'est dans l'obscurité, c'est pas dans l'évidence. Deuxième article, si l'existence de Dieu n'est pas évident, pouvons-nous le démontrer ? Donc l'existence de Dieu est démontrable. On peut le démontrer en se servant d'un métaxu. C'est-à-dire d'un intermédiaire. Hein. Métaxu, en grec, c'est intermédiaire. Le mot métaxu est très beau. Alors, donc, en se servant d'un métaxu, d'un intermédiaire, c'est-à-dire est démontrable. Il n'est pas évident, mais il est démontrable. Il est démontrable selon une démonstration imparfaite qu'on appelle la démonstration à partir des effets. C'est la démonstration a posteriori. Et l'article 3 nous donne le comment de cette démonstration. Et le comment de cette démonstration implique les cinq voies. Donc Saint Thomas va essayer de montrer comment l'intelligence humaine peut arriver à démontrer l'existence de Dieu par les cinq voies. Dans les cinq voies, vous voyez ce que Saint Thomas essaie d'établir, c'est le lien entre mon intelligence et l'existence de Dieu. Entre mon intelligence et l'existence de Dieu, il n'y a pas un lien direct. Il n'y a pas un lien immédiat. Il y a un lien indirect par l'intermédiaire d'un métaxu, donc par l'intermédiaire de quelque chose qui me permettra de l'atteindre. Et ce métaxu, c'est les effets de Dieu. Donc, c'est les réalités existantes. C'est moi comme réalité existante. Je peux me servir de l'expérience que j'ai de l'homme pour me découvrir l'existence de Dieu. Je ne vois pas avec vous. Ça a été vu l'année dernière. C'est une question très importante, très difficile, mais très importante. C'est d'essayer de saisir comment, par une démonstration très imparfaite, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il vaut presque mieux pas dire démonstration. Il vaut mieux dire le terme habituellement employé, le dévoilement. Mais en comprenant qu'il y a une démonstration, mais imparfaite. Ce n'est pas une démonstration parfaite. Dès qu'on dit démonstration, on pense tout de suite à une démonstration parfaite. Seul Descartes dit qu'il y a une démonstration parfaite pour remonter jusqu'à l'existence de Dieu. Il n'y a que Descartes qui dit ça. Mais là, Descartes s'est trompé. Et c'est très grave, parce qu'alors, à partir de là, on a répété qu'il y a une démonstration de l'existence de Dieu. Et tout le monde pense qu'il y a une démonstration vraiment rigoureuse pour l'existence de Dieu. Il y a une démonstration imparfaite. Elle est rigoureuse, mais elle est imparfaite. Elle est analogique. Ce qui fait qu'elle est très difficile. C'est la grande montée vers l'existence de Dieu. Donc c'est un dévoilement où nous sommes obligés de dire « Oui, il est nécessaire qu'il existe un être premier. » Oui, il est nécessaire qu'il existe un être au-delà de tout ce que je peux voir. Oui, il est nécessaire qu'il existe un être qui est acte pur. Oui, il est nécessaire de dire qu'il y a un être qui n'a aucune, absolument aucune imperfection. Cet être-là, c'est celui que les traditions religieuses appellent Dieu. Puisque je vous ai dit, le mot Dieu ne fait pas partie directement de la philosophie. C'est un mot que le philosophe introduit dans sa philosophie grâce aux traditions religieuses. Et c'est un mot que le philosophe essaie de comprendre, de donner toute sa valeur. C'est la même chose pour le mot âme. L'âme spirituelle, c'est un mot qui vient des traditions religieuses. Il ne faut pas l'oublier. Le philosophe, lui, parle de cause et de principe de la vie. Il dit qu'il y a nécessairement un principe de vie, et ce principe de vie pour l'homme, c'est ce qu'on appelle l'âme. C'est ce qu'on appelle l'âme spirituelle. On le verra à propos de la philosophie du vivant. Et ça, c'est très important là aussi. Parce qu'il y a des tas de confusions qui se font quand il y a ces petits blocages, tout simplement. Alors on dira « preuve de l'existence de Dieu ». Saint Thomas ne dira jamais ça. Il ne dit pas « preuve de l'existence de Dieu ». On pourrait dire « démonstration imparfaite pour découvrir l'existence nécessaire d'un être premier ». Et cet être premier qui est l'absolu, c'est celui que nous appelons Dieu. Je crois que vous commencez à comprendre. Hein. C'est très très important de ne pas faire la confusion. Donc ça, c'est la question de où saint Thomas essaie de voir si l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Vous voyez, au fond, c'est une épreuve de force, cette question de. C'est pour voir si mon intelligence est capable d'atteindre l'existence de Dieu. La foi, le croyant, c'est que nous avons une intelligence créée par Dieu. Le croyant sait que Dieu existe. Il essaie de saisir le lien qui existe entre lui. Quel est le rapport qui existe entre mon intelligence et l'existence de Dieu? Est-ce que l'existence de Dieu est complètement au-delà de mon intelligence, et donc je ne peux absolument pas l'atteindre? Ou est-ce qu'au contraire, mon intelligence humaine, en étant très attentive à son éveil, peut découvrir une possibilité d'affirmer que Dieu existe? Mais c'est ça le sens de la question 2. Donc c'est l'épreuve de l'instrument. Et vous comprenez que cette question 2 est une question donc critique. Vous êtes d'abord réfléchi sur l'instrument, parce que si mon intelligence humaine était incapable d'atteindre l'existence de Dieu, il ne pourrait pas y avoir de théologie scientifique. Et c'est pour ça que Saint-Amand met au début de sa théologie scientifique. Si l'intelligence humaine était incapable d'atteindre l'existence de Dieu par elle-même, il ne pourrait pas y avoir de théologie scientifique. C'est pour ça que tous ceux qui disent que l'intelligence humaine est incapable d'atteindre l'existence de Dieu rejettent la théologie scientifique de saint Thomas. C'est pas étonnant. Parce que si l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu, je suis capable, par mon intelligence, de découvrir les analogies propres et de les distinguer des analogies métaphoriques. Donc je peux faire un discernement. Vous verrez ce que c'est, hein, pour ceux qui sont tout à fait au début. Vous verrez ce que c'est qu'analogie propre et analogie métaphorique. Actuellement, accepter de ne pas comprendre. Et puis vous verrez progressivement ce que c'est. C'est le langage métaphorique. Vous voyez, le langage métaphorique, quand on dit par exemple Dieu, en Dieu il y a la vie. Quand j'attribue à Dieu la vie, c'est une analogie propre. Parce que la vie n'est pas nécessairement liée à la vie biologique. Quand j'ai dit que Dieu est esprit, c'est une analogie propre. Mais quand je dis, par exemple, que Dieu est mon roc, que Dieu est mon bouclier, vous êtes en face d'une analogie métaphorique. C'est un langage symbolique. Et donc vous êtes en face d'une analogie métaphorique, parce que c'est une analogie qui implique toujours un élément sensible. Le bouclier, c'est sensible. Le roc, c'est sensible. Alors, vous ne pouvez pas découvrir en Dieu le bouclier et le roc. C'est impossible. Donc, c'est métaphorique quand vous dites « Dieu est mon roc, Dieu est mon bouclier ». Alors, il faut pouvoir faire le discernement entre un langage purement symbolique, métaphorique, et un langage propre, qui est le langage de la théologie scientifique. Bon, vous verrez ça progressivement. Question 2. Saint Thomas va entrer dans le vif de la question. Question 3, la simplicité de Dieu. La simplicité de l'exister de Dieu. Bon, c'est la question que nous allons voir ensemble. Donc vous voyez bien, j'espère. Pour le philosophe, la question de la manière d'exister de l'être premier, c'est une question ultime. C'est là où la philosophie première devient sagesse. La philosophie première devient sagesse quand elle regarde directement l'être premier. Et qu'elle regarde la manière d'exister de l'être premier. Donc, la philosophie première devient sagesse dans son regard sur l'être premier. La philosophie première devient sagesse. Et c'est le regard ultime, dernier. Tandis que, pour le croyant, celui qui part de la foi, le problème de Dieu est immédiat. Et le problème de savoir la manière d'exister de l'être de Dieu, c'est quelque chose qui vient tout de suite. La première question du théologien, du théologien de théologie scientifique, c'est de savoir si Dieu est simple. C'est vraiment la première question. Pourquoi ? Parce qu'il regarde tout de suite Dieu. Et je ne peux pas dire que la première question du philosophe, c'est de dire que Dieu est simple. Je ne peux pas savoir ça. Parce que je ne sais même pas ce que c'est que Dieu, au point de vue philosophique. Il faut donc d'abord avoir découvert l'exister de Dieu pour pouvoir me poser la question, cet être premier dont j'ai affirmé l'existence, que nous appelons Dieu, est-il absolument simple ? C'est quelque chose d'ultime comme question. Tandis qu'au niveau de la doctrine sacrée, c'est premier. Donc ça c'est important parce que ça nous montre tout de suite la différence de point de départ. Ce qui est ultime d'un côté et premier de l'autre côté. Et ceci en raison même du caractère propre de la philosophie et de la théologie doctrina sacra. Alors nous allons ensemble analyser cette question de la simplicité qui est très belle. C'est la première question. Donc saint Thomas l'a soignée particulièrement. Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement. Alors évidemment, si vous savez parfaitement la simplicité, vous savez le commencement de la somme. Vous savez comment ça. Et vous voyez peut-être là, de la façon la plus nette, la plus rigoureuse, ce que c'est que la théologie scientifique. C'est pour ça que cette question est très importante. Elle est belle, elle est grande, elle a un intérêt très très particulier pour nous. Et elle n'est pas très difficile. Une fois assuré qu'un être existe. Il reste à se demander comment il est. Vous voyez, le pose, comment il est, afin d'en venir à ce qu'il est. très intéressant de voir ces trois questions successives que nous pose saint Thomas. L'ancit, le commodo sit et le quid sit. Alors ça, il faut comprendre ça, c'est un langage latin, et comprenez-le. Alors je l'écris pour que vous sachiez bien. L'ancit, le commodo sit et le quid sit. Tout l'effort d'une science, c'est de comprendre le quid sit. Alors, traduisez quid sit. Ça, en grec. Je traduis d'abord en grec, hein, vous comprendrez mieux. Le ti esti. Et je le traduis maintenant. Qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Le ti. Les Grecs modernes disent simplement le ti, titi. Vous voyez, vous avez compris le titi, vous comprenez très bien le quid sit. Qu'est-ce que c'est? Quand un Grec vous dit comme un gosse, en grec, le titi, ben, vous voyez très bien, ça c'est le quid sit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon, le pomodo, c'est le pos. Le pos grec, c'est le comment. Comment cette chose existe-t-elle? Le comment regarde l'exister. Le quid regarde la nature et les sens. Et le ansit, c'est la question, est-ce que cette réalité existe? C'est le est-il. Ceci existe-t-il? Porte sur l'exister. Est-ce que ça existe? Vous voyez, dans le noir, vous voyez un fantôme. Hein, vous voyez un fantôme. Vous vous approchez pour savoir si ça existe. Les soucoupes volantes. Ansit. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Il y avait le témoignage de certains, mais ils ont peut-être eu des hallucinations. Est-ce que ça existe? Ansit. Après, vous allez demander « Commodo sit », comment ça existe, pour savoir le « quid sit ». Alors, vous voyez, c'est très très joli, saint Thomas est en théologie ici, d'habitude. Hein. Aristote nous dit ceci, tout de suite vous voyez la différence au point de vue philosophique. Au point de vue philosophique, vous avez le « ansit » et le « quid », et le « commodo » en troisième lieu. Voilà l'ordre philosophique. L'ordre théologique est au contraire celui-ci. Pourquoi? C'est que le théologien ne peut pas savoir le quid de Dieu. Le théologien ne peut pas savoir ce qu'est Dieu. Alors il se rabat sur le commodo. Nous ne saurons ce qu'est Dieu que le jour où nous serons dans la vision béatifique. Tant qu'on est sur la terre, nous ne savons pas ce qu'est Dieu. Mais nous pouvons découvrir le commodo. Et saint Thomas va préciser même le commodo non sit. Comment il n'est pas. Donc on est obligé de se rabattre là-dessus. Et c'est pour ça que saint Thomas donne cet ordre-là, vous comprenez. En théologien, en philosophe, il ne donnerait pas cet ordre-là. Donc il faut comprendre, on est en théologie. En théologie, on ne peut pas savoir le quid. Faciliter au commodo. Je précise encore, parce qu'il s'agit de bien comprendre ça, c'est très très important, c'est l'orientation. On oriente notre intelligence par les interrogations, nous le verrons en philosophie. Et c'est bon de bien orienter. Une intelligence bien orientée est presque sûre d'atteindre le but. Une intelligence mal orientée, elle n'atteint jamais le but. Ça c'est vrai ça. C'est pour ça que c'est si important de comprendre ce que c'est qu'une interrogation. Alors, l'interrogation du quid, on dira en français depuis Auguste Comte que l'interrogation du quid, c'est le pourquoi. Vous savez, Auguste Comte dit qu'il y a deux espèces d'interrogation. l'interrogation du comment et l'interrogation du pourquoi. Et Auguste Comte dit, l'interrogation du comment est la seule intelligente pour une intelligente adulte. L'interrogation du pourquoi, c'est l'interrogation du gosse. C'est l'infantilité. C'est l'infantilité des théologiens. Il se pose le pourquoi. Vous voyez, Auguste Comte s'est mis le doigt dans l'œil. Hein, parce que s'il avait vu saint Thomas, il aurait dit que saint Thomas se pose la question du comment et pas du pourquoi. C'est là, on voit combien ces gens-là ne connaissent rien. Il dit ça, a priori. Parce que s'ils avaient connu. Mais digne de la lecture du réfectoire du soir. Hein, c'est comme ça. Ils ne comprennent pas. Ils connaissent un domaine historique. Et le domaine philosophique et le domaine théologique, non. Alors, disant en histoire, il ne faut surtout pas faire de généralisation. En philosophie, surtout pas faire de généralisation. En théologie, surtout pas faire de généralisation. Si vous commencez à faire des généralisations, vous dites des bêtises. C'est très curieux, vous voyez. Dans le domaine dans lequel on est spécialisé, on est sensibilisé. Dans un domaine, les autres, non, on fait des généralisations. Alors qu'on devrait comprendre, si on est compétent dans un domaine, on doit être dans tous les domaines respectueux. Il y a le domaine de la philosophie, le domaine de l'histoire, le domaine des religions, et ainsi de suite. Et dès qu'on fait une généralisation, on dit des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Donc ici, c'est pour vous montrer que Auguste Comte, quand il nous dit qu'il y a deux grandes interrogations, le comment et le pourquoi, il dit quelque chose de juste. C'est très vrai. Mon intelligence est ordonnée vers le comment et mon intelligence est ordonnée vers le pourquoi. Auguste Comte oublie l'interrogation de l'ancien. Ah, complètement. S'il avait eu cette interrogation-là, il n'aurait plus opposé les deux. Il y a une espèce de dialectique qu'il a mis entre les deux. Or, il y a un troisième terme, l'ancien. C'est pour ça que c'est si important, l'ancien. Est-ce que cette chose existe? Dès que vous posez l'ancien, vous ne pouvez plus tomber dans la dialectique d'opposition entre le pourquoi et le comment. Parce que vous voyez qu'il y a quelque chose de commun entre les deux. Donc il n'y a pas une opposition. L'ancite et le quidcite présupposent... Non, je veux dire, le commodocite et le quidcite présupposent l'ancite. Donc il y a quelque chose de commun. Vous voyez, c'est ça l'erreur. Il a oublié la question d'interrogation. Est-ce que cela existe? C'est vrai que le quid, qu'est-ce que c'est? C'est le pourquoi. Pourquoi ça? Et vous expliquez par la nature. Et vous expliquez par la finalité. Donc, je n'insiste pas plus. Mais c'est intéressant de voir que saint Thomas pose tout de suite ça au point de départ. Donc, une fois assuré qu'une réalité existe, il reste à se demander comment elle existe afin d'en venir à savoir ce qu'elle est. Mais à l'égard de Dieu, ne pouvant savoir ce qu'elle est, on est réduit à connaître ce qu'il n'est pas. Nous n'avons point à considérer comment il est, mais plutôt comment il n'est pas. Donc toute la théologie scientifique va être ramenée à cette question du commodo non sit. Comment Dieu n'est pas. Ça, c'est capital de comprendre ça. On lit la somme de saint Thomas en oubliant ce que saint Thomas dit au point de départ. Saint Thomas nous fait comprendre qu'on est en présence d'un mystère. Un mystère, ça nous dépasse toujours. Donc un mystère, on ne peut savoir que le quomodo non sit. Comment cela n'est pas. Ça, c'est important. C'est important de comprendre ça. Parce qu'alors, on respecte pleinement et totalement le mystère. Tandis que si vous lisez la somme en oubliant ça, eh bien, pratiquement, vous tomberez dans une position de rationaliste. Et c'est ce que beaucoup ont fait. Ils oublient le mystère. Il faut donc examiner comment il n'est pas, de quelle manière nous le connaissons, de quelle manière on le nomme. C'est net. Trois grandes questions qui vont structurer tout le début de la somme par rapport à Dieu. Comment il n'est pas, ce que nous allons voir. De quelle manière nous le connaissons, ça c'est la réflexion sur le point de vue de la connaissance. De quelle manière on le nomme, les noms de Dieu. On est en théologie, hein. faut pas l'oublier, parce qu'en philosophie, on dirait pas ça. On peut montrer comment Dieu n'est pas, en écartant de lui ce qui ne saurait lui convenir, comme d'être composé, d'être en mouvement, d'être autre chose semblable. Il faut donc s'occuper de la simplicité de Dieu par laquelle nous excluons de lui toute composition. Mais parce que dans les choses corporelles, les choses sensibles sont les moins parfaites et font partie des autres, nous traiterons de sa perfection, de son infinité, de son immutabilité et de son unité. Donc saint Thomas nous donne là un petit ordre très important, parce que n'oublions pas, le propre du sage, c'est d'ordonner. Et comme là nous sommes en présence du point de départ de la sagesse théologique, cet ordre à l'égard de Dieu est très important à bien saisir. Cet ordre à l'égard du comment Dieu existe, ou du comment Dieu n'existe pas. C'est très important à bien saisir. Nous allons réfléchir là-dessus, parce que ça c'est capital. Si on ne voit pas ça, on ne comprend pas la suite. Et ça, de façon générale, quand vous lisez saint Thomas, soyez toujours très attentif à l'ordre des questions. Parce que si vous n'êtes pas attentif à l'ordre des questions, vous ne comprenez rien du tout. Il faut être très attentif à l'ordre des questions. Alors ici, donc, saint Thomas nous montre les trois grandes questions qu'il va se poser à l'égard de Dieu, à l'égard de l'exister de Dieu. Comment il n'est pas ? Je comprends l'exister de Dieu relativement à l'exister de l'homme, bien évidemment, puisque j'ai la connaissance de l'homme avant la connaissance de Dieu, au point de vue philosophique. Au point de vue théologique, c'est l'inverse. Au point de vue philosophique, j'ai la connaissance de l'homme avant la connaissance de Dieu. Donc, je peux dire que Dieu, je le connais en référence aux créatures, en référence à l'homme, parce que je connais plus immédiatement l'homme. Donc comment il n'est pas ? Puis je réfléchis sur la manière dont je le connais, puis enfin j'essaie de nommer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire les noms divins ? Et j'essaie de réfléchir sur les noms divins. Alors, montrer comment Dieu n'est pas, c'est écarter de Dieu tout ce qui ne peut pas lui convenir. Quelle est la première chose qu'on écarte de Dieu ? Quelle est la première chose qu'on écarte de l'exister de Dieu ? On écarte ce qui est le plus proche de nous. Qu'est-ce qui est le plus proche de nous ? De notre propre connaissance. C'est notre complexité. Tout le monde est d'accord ? C'est notre complexité. L'homme est l'être le plus complexe qu'il soit. Teilhard Chardin et saint Thomas disent. Donc c'est vrai. Alors vous voyez que là vous retrouvez quelque chose qui est parfaitement expérimental aujourd'hui. La complexité de l'homme. Eh bien, la première question que je me pose, parce que c'est la première chose que je vois, la structure si complexe de l'homme. Alors, ce qui est très intéressant, vous voyez que dans cette question, saint Thomas va nous donner toute la complexité de l'homme. Et en opposition, il va montrer, cette opposition n'existe pas en Dieu. Dieu n'est pas un être complexe. Il est un être au-delà de la complexité. Il est un être simple. Vous n'avez aucune expérience d'un être simple. Aucune expérience. Vous avez des nostalgies de simplicité. Terrible. Matisse à la fin de sa vie. Le Saint-Dominique de Matisse. C'est la. Tout grand artiste a une nostalgie de simplicité à la fin de sa vie. C'est terrible. Tout grand artiste. Tout ami a la nostalgie de la simplicité à l'égard de son ami. Il voudrait être d'une clarté absolue. Et il ne l'est jamais. Il ne peut pas l'être. Impossible. On est complexe. Il y a en moi deux hommes, la complexité, saint Paul le dit. Et saint Paul aurait voulu la simplicité. Il y a en moi deux hommes. Et quelquefois, il y en a trois. Et quelquefois, il y en a quatre. Et quelquefois, il y en a cinq. On va tous les compter. Vous allez voir, c'est la complexité. C'est extraordinaire, la complexité de l'homme. Et à partir de là, je vois toute la complexité qui est en moi, la difficulté que j'ai d'être simple. Soyez simple comme des colombes, prudent comme le serpent. La complexité du serpent. Parce que souvent, la prudence, c'est pas la dualité, mais la complexité, la simplicité. Alors on peut se poser la question, et on doit se poser la question, avons-nous l'expérience de la simplicité ? Non. On a des nostalgies de simplicité. Alors ça, terrible. Et c'est bon, hein, on n'a pas l'expérience. Si vous avez l'expérience de la simplicité, vous viendrez me le dire. Écrivez-le sur un papier, votre expérience de la simplicité. Vous verrez comme c'est complexe. Parce que l'expérience de la simplicité, vous tournerez autour indéfiniment. Ah, oh, c'est simple, c'est simple. Qu'est-ce que c'est que la simplicité ? Oui, oui. C'est ce qui n'est pas composé. Ah, très très bien. Ce qui n'est pas composé. Vous voyez la connaissance que j'ai de Dieu. J'ai dit toute complexité est liée à Dieu. Procédé négatif. La négation qui va jouer un rôle si important. Alors vous voyez qu'on va découvrir progressivement que j'atteins Dieu par la causalité, par la négation et par l'imminence. C'est le vieux Denis qui dit ça. Et saint Thomas reprend ça. Et ça, nous allons voir progressivement. La causalité, c'est bien évident, puisque je ne peux atteindre l'exister de Dieu que par sa causalité. Donc, la question de Dieu existe-t-il ? Je l'atteins par la causalité. Donc, c'est toujours présent. Mais la causalité me fait atteindre l'exister de Dieu. Cet exister de Dieu, puis-je connaître quelque chose de Dieu ? Oui, négativement. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup. Négativement. Et en le connaissant négativement, il va y avoir une certaine voie d'éminence. C'est très curieux. Et ça, il faut le saisir à travers cette question. Donc, voyez comment. Première chose, la complexité. La seconde chose que nous voyons, hein, à côté de la complexité, ce sera le point de vue de l'imperfection. Un être complexe tend vers la perfection et ne reste toujours imparfait. Et donc, ce sera la perfection. Ensuite, ça c'est la seconde chose. Ensuite, nous découvrons le point de vue de la bonté. Que nous voyons les réalités. Oui, il y a une certaine bonté, mais une bonté qui est dans la complexité. Une bonté qui est limitée. Or, la bonté réclame de ne pas avoir de limites. Donc, il faudra nier les limites de Dieu. Quatrièmement, nous voyons l'infinité de Dieu. Parce que la créature est limite, elle est limitée, et la limite implique d'être finie. Nous voyons ensuite l'immensité de Dieu. Un être infini, il est immense. Il faut bien comprendre ce que c'est que l'immensité de Dieu. Quand on regarde les étoiles, on dit « Dieu contient tout ça, il est immense ». L'immensité de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la présence d'immensité de Dieu. Ensuite, vous voyez l'immutabilité. L'éternité. Et l'unité. Voilà tous les attributs. Premier attribut. Les manières d'exister que nous posons dans l'existence de Dieu. À partir de ma manière d'exister comme personne. J'existe d'une manière complexe. J'existe dans une imperfection. J'existe dans des limites. J'existe d'une façon finie. J'existe dans le mouvement. C'est vrai. J'existe dans le mouvement, donc je suis mesuré par le temps, et donc il y a en moi une unité très imparfaite. En opposition au contraire, je vois en Dieu la simplicité, la perfection, la bonté, l'infinité, l'immensité, l'immutabilité, l'éternité et l'unité. Alors ça, c'est très très beau à essayer de bien saisir l'ordre de ces manières d'être de Dieu. Alors, ceux qui sont très attentifs au langage de saint Thomas voient que saint Thomas parle ici uniquement de simplicité, de perfection, mise entre parenthèses de la bonté, mise entre parenthèses de l'infini, non de l'infini, mise entre parenthèses de l'immensité, l'immutabilité, mise entre parenthèses de l'éternité, et enfin l'unité. Ça, c'est très connu et c'est très intéressant. Un tout petit mot là-dessus, pour les plus avancés. Hein? Un tout petit mot là-dessus, pour comparer ce que saint Thomas énonce et ce que saint Thomas fait. Il énonce uniquement ses attributs. Simplicité, perfection, infinité, immutabilité, éternité. Voilà les seuls qu'il énonce comme un ordre de structure. Et ce qu'il nous donne, c'est simplicité, perfection, bonté, immensité, éternité. Donc vous en avez trois en plus. Bonté, immensité, éternité sont donnés en plus. Pourquoi ? Pourquoi de fait il y a cela ? Pourquoi ça ne colle pas ? C'est parce que de fait il y a des attributs qui en quelque sorte sont les conséquences de l'autre. Donc ils ne font pas partie de la structure. On est en théologie scientifique. Eh bien la bonté qui pourtant est si importante en théologie mystique apparaît ici comme quelque chose qui ne structure pas. On essaie de comprendre. L'immensité, on comprend très bien, c'est la conséquence directe de l'infini. Et l'éternité, c'est la conséquence directe de l'immutabilité. C'est beaucoup plus facile à comprendre. C'est beaucoup plus difficile par rapport à la bonté. Mais c'est très significatif. Mais je reprends pour que vous saisissez bien ça, parce que ça a son intérêt, au point de vue philosophique, au point de vue de la connaissance de saint Thomas. Saint Thomas énonce toujours ce qu'il va faire. Mais il l'énonce et quelquefois il ne fait pas exactement ce qu'il va faire. C'est curieux ça. Donc ça pose un petit problème. Ou il y a eu un oubli de la part de saint Thomas, ce que je ne crois pas. Je crois que saint Thomas est très conscient et très attentif. Il oublie très difficilement saint Thomas. Il est très attentif. Mais ce qu'il énonce ne correspond pas à ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il énonce ? Comme succession de manières d'exister de Dieu. Simplicité, perfection, infinité, immutabilité, unité. Ce qu'il fait, c'est d'ajouter, il fourre entre deux la bonté, l'immensité, l'éternité. Je comprends très bien pour l'éternité et l'immensité, puisque ce sont des conséquences. Un être qui est infini est immense, bien évident. Un être qui est immuable est éternel, c'est bien évident. Puisque c'est dans la mesure où vous changez, vous êtes dans le temps. Dans la mesure où vous ne changez pas, vous n'êtes plus dans le temps. Vous êtes éternel. Quelque chose d'éternel en vous. L'éternité se fonde sur l'immutabilité. Se fonde. L'immensité se fonde sur l'infini. Donc ça, je comprends très bien. Alors on ne donne pas ces attributs qui sont des attributs seconds. Mais la bonté, ce n'est pas un attribut second. C'est un scandale de dire que la bonté est un attribut second. C'est un scandale. Quand même, c'est bien plus affirmer la bonté de Dieu que la simplicité de Dieu. La simplicité de Dieu n'est pas affirmée dans l'Écriture. Cherchez bien à travers toute l'Écriture. Il y a eu un théologien de Rome, dominicain, qui était un bibliste, et qui a voulu montrer comment tous les attributs de saint Thomas, tels qu'il nous donnait, relevaient d'une théologie biblique. Alors c'est très très gênant, parce que le premier de la théologie scientifique n'est pas dans la Bible. Cherchez bien à travers toute la Bible Vous n'aurez jamais affirmé que Dieu est saint. On dira, soyez saints comme des colombes, c'est pas Dieu. Soyez saints comme des colombes et prudents pour les comme les serpents. Mais jamais dit que Dieu est saint. Jamais. Tandis qu'il est dit que Dieu est parfait. Tandis qu'il est dit que Dieu est bon. Tandis qu'il dit que Dieu est infini. Le premier attribut au point de vue biblique, c'est la toute-puissance. Et le premier attribut au niveau théologie scientifique, c'est la simplicité. Mais je dis ça pour que vous saisissiez la différence du regard du théologien scientifique que donne saint Thomas et le regard différent du théologien biblique. C'est deux ordres différents. Il ne faut pas vouloir les grimoire. Il faut les respecter. Et comprendre que l'un aide l'autre et que l'autre aide l'un. Peut l'aider. Il y a des relations mutuelles. Le premier attribut au point de vue scientifique, simplicité. Ce n'est pas le premier attribut biblique, c'est la toute-puissance. Alors c'est ça qui est très curieux. Le dernier attribut que va regarder le théologien scientifique, c'est la toute-puissance. Et c'est le premier au point de vue biblique. C'est déconcertant, ça.